Good Morning Business, le grand débrief.
Le grand débrief ce matin avec Marc Fiorentino, Gaël Slimane, président de Doxa, et Benaouda Abdedaïm. On va commencer par le plan européen, ça sera tout à l'heure au Conseil européen formel à Prague, le plan européen pour encadrer les prix du gaz. Est-ce qu'on peut, Benaouda, vraiment se faire fi du marché et encadrer les prix du gaz?
Ça sera un précédent historique si les Européens parviennent à tordre le bras à un principe de marché fondamental, aussi bien pour les Norvégiens que pour les Américains. Quoi qu'il en soit, apparemment dans une version préliminaire des conclusions du sommet européen de Prague du jour, comme vous le savez, c'est d'abord préparé par les Sherpas, les conseillers, et il va être demandé à la Commission européenne d'accélérer les négociations avec les partenaires, les amis de l'Union, afin de faire diminuer les prix à l'importation. Alors, les Norvégiens qui sont dans l'espace économique européen, qui ont expliqué tout récemment par la voix de leur Premier ministre travailliste que ce n'est pas son gouvernement qui vend le gaz et ce ne sont pas les autorités européennes qui achètent, mais des entreprises, sont prêts à partager une détermination commune à ce que les prix du gaz soient significativement réduits. Alors, le passage à l'acte, oui. Faudra voir.
Les paroles et des actes.
Alors, quant aux Américains, il leur est demandé de faire preuve de solidarité politique avec les alliés européens. C'est une notion qui peut être à la rigueur entendue de leur part, mais ça voudrait dire que c'est le gouvernement fédéral américain qui rédigerait les conditions essentielles des contrats, ce qui est des commandes, ce qui est à peu près des commandes de droit privé, hein, rappelons-le, ce qui est à peu près inconcevable de leur part. D'autant plus que on a vu cette semaine Berlin pratiquement accuser les Américains d'être des profiteurs de guerre avec leurs exportations de GNL par la voix du vice-chancelier Robert Habeck, le ministre allemand de l'économie. Et de ce point de vue-là, l'administration Biden a refusé de réagir. Et on peut se dire qu'ils ont envie de tout sauf de ce coup de pouce aux Allemands, à qui ils reprochent d'ailleurs leurs propres incohérences politiques internes.
Marc, quand on en est à parler de solidarité politique et de communauté de valeurs pour essayer d'avoir un rabais sur le gaz, c'est quand même que ça va très mal. Est-ce que l'Europe décroche ?
Non, alors l'Europe décroche évidemment, hein, puisqu'on est en première ligne et on voit très bien, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est une victoire écroisante pour les États-Unis et par contre, pour l'Europe, on est vraiment en première ligne. Alors il y a deux sujets sur le gaz. D'abord, c'est possible ce qui est en train de se faire, parce qu'il s'agirait simplement d'avoir des contrats à longue durée. N'oublions pas que le prix du gaz a explosé, ouais, mais que les anticipations de prix du gaz sur la durée ne sont pas du tout à la hausse. On prévoit des baisses du prix du gaz de 30 à 40%, voire 50%. C'est-à-dire que pour des producteurs de gaz, s'assurer aujourd'hui un débouché à un cours inférieur au cours de marché aujourd'hui, c'est jouable. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que l'Union européenne aujourd'hui est confrontée à un problème qui est le problème de l'Allemagne. C'est-à-dire que l'Allemagne a annoncé un plan unilatéral d'aide de 200 milliards d'euros pour aider les ménages, oui, les plus touchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce plan est adopté, finalement, il n'y aura pas d'incitation à la réduction de la consommation en Allemagne du gaz. Et ça risque, et c'est pour ça que ça gueule de tous les côtés en Europe. C'est ça le vrai sujet. Le vrai sujet aujourd'hui, au-delà du cap qui est un peu anecdotique, c'est de se dire, les Allemands ne peuvent pas faire cavalier seul, parce que s'ils font cavalier seul, ils vont mettre tout le reste de l'Europe dans une situation qui est intenable. Donc oui, solidarité européenne d'un côté, mais affrontement entre les Allemands et le reste de l'Europe de l'autre.
Vous avez vu le régulateur allemand de l'énergie qui tire la sonnette d'alarme, car les Allemands ont consommé, oui, 10%, ouais, d'énergie en plus par rapport aux 4 dernières années.
Et avec les 200 milliards, les Espagnols, les Français, les Italiens disent « Mais nous, on va se retrouver dans une situation qui va être catastrophique parce que les Allemands ne vont pas réduire leur consommation. »
Ceci étant, il faut écouter aussi les acteurs de marché aux États-Unis. Ils n'ont pas envie de ce coup de pouce. Le président de Tellurian, qui est vraiment le pionnier d'entre les pionniers de l'exportation de GNL, a été à un forum d'Energy Intelligence à Londres cette semaine pour dire que obtenir du gaz américain livré à 4-5 $ sur l'eau dans leur unité de référence, c'était inconcevable et qu'il fallait plutôt tabler sur 10-12 $. Alors 10-12 $, j'ai fait un rapide calcul, oui, ça représente 25% de plus que le pic atteint le 22 août. Oui. Donc c'est ça. Et ce que dit le président Tellurian, encore une fois, qui est une voix tout à fait écoutée, mais même fondamentale aux États-Unis dans ce domaine-là, c'est que si les Européens veulent à ce point du gaz américain, il faut qu'ils investissent massivement des dizaines et des dizaines de milliards de dollars dans les infrastructures de GNL aux États-Unis et au Qatar. Et pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on entend.
Khalid Slimane, est-ce qu'il y a une perception par les Français de la réalité de la crise énergétique et de la réalité que les prix de l'énergie vont sans doute continuer à augmenter, qu'il va falloir moins consommer, que la transition elle va durer longtemps, elle va être très coûteuse. Est-ce que vous...
Bah, malheureusement, oui.
Vous êtes sûr de ça? Parce que les gens veulent consommer, hein.
Bah oui.
Ils veulent qu'on les aide à consommer, donc ils veulent que l'État paye l'énergie. Mais c'est pas comme ça que ça va se passer.
Oui, mais alors il y a deux questions, Christophe. La première question, est-ce que les gens ont conscience qu'il y a un problème? Oui. Est-ce qu'ils le vivent déjà? Oui. On a plusieurs baromètres sur la consommation. On a notre baromètre économique avec BFM, où on suit le moral des Français. Vous avez vu comment ça a plongé.
Oui.
Et depuis la guerre en Ukraine, l'indice de morale économique qu'on suit chaque mois ensemble a été divisé par deux. Voilà, c'est jamais arrivé à ce point-là. Donc, il y a, alors qu'on partait vraiment très bien juste avant la guerre en Ukraine en termes de rebond de morale, d'anticipation positive, tout s'est effondré. Ouais. Et à mesure que les prix de l'énergie augmentent et qu'on leur annonce un hiver qui va être très rude, eh bien, on voit dans les enquêtes que les Français s'angoissent. Donc, il y a une prise de conscience. Il y a une capacité dans le déclaratif et dans ce qu'on observe déjà à changer leur comportement. On a tout un tas de batteries d'enquêtes où on mesure ce que les Français font déjà en termes de changement de comportement pour consommer moins d'énergie et pour être plus sobre énergétiquement, puisque c'est le terme à la mode, et ce qu'ils sont prêts à faire.
Mais c'est pas comme en quand revanche, on dit qu'on regarde Arte, alors qu'en fait, c'est pas du déclaratif ce que vous dites.
Alors non, vous savez, d'ailleurs sur les sondages Arte, c'est génial parce que en fait, c'est vrai. C'est-à-dire que les gens disent pas je regarde Arte.
Ouais.
On leur demande dans les enquêtes quelles sont finalement les chaînes que vous préférez.
Ouais.
Et sans doute que les téléspectateurs, auditeurs de BFM Business vous diront qu'ils adorent cette chaîne.
Ah, mais eux, ils regardent vraiment Arte.
Voilà. Et qu'ils aiment Arte. Ouais. C'est pas tout à fait pareil. Non, sur les mesures de comportement, bah, il suffit de jeter un œil. Ici, nous sommes à Paris. Vous sortez dans la rue, vous regardez l'explosion du nombre de vélos électriques qui sont utilisés, l'effondrement de
parce
l'usage.
Parce qu'on peut plus dire que dans Paris, c'est une autre.
Alors, l'effondrement de l'usage de la voiture thermique. Mais vous me direz, c'est pour la même raison. Moi, je suis en scooter, hein, et on nous tend des pièges aussi en ce moment.
C'est un autre débat.
Mais
les stationnements.
Pour vous répondre, oui, il y a une prise de conscience, mais nous sommes Français. Donc, le Français, quand il est confronté à une difficulté, il a un réflexe naturel qui consiste à se tourner vers les pouvoirs publics.
Oui.
Et ça, c'est votre deuxième, alors pas question, mais
interpellation.
Ouais. Oui, bien sûr qu'ils attendent de l'aide de l'État et qu'ils en ont déjà eu dans notre pays. On est quand même le pays qui a le plus épongé la hausse des coûts de l'énergie et les Français le savent aussi.
On était avec le patron de l'INSEE tout à l'heure qui nous disait là on va être un repli sur le pouvoir d'achat de 0,1. Le choc serait infiniment plus fort. Il chiffre à 1,3% s'il n'y avait rien qui avait été mis en place. Mais ça ne va pas durer. C'est-à-dire que ça va s'arrêter en partie, notamment sur l'essence. Donc sur la consommation des ménages, il y a assez peu d'optimisme.
On est dans un système d'assistanat poussé à l'extrême, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas
les factures.
Oui, alors si vous voulez, on en parlait tout à l'heure juste avant l'émission, c'est-à-dire que ça se reporte dans quelque chose qui est assez paradoxal, c'est qu'à la fois vous avez une consommation qui tient quand même, hein. C'est-à-dire qu'on a une croissance qui résiste, ouais. Et il n'y a pas d'étonnement à avoir, on a une croissance qui résiste parce qu'il y a un bouclier tarifaire, parce qu'on a des aides qui sont en place, et parce qu'on continue à faire ce qu'on a fait pendant le Covid, c'est-à-dire qu'à chaque point de baisse du PIB, on met un point supplémentaire d'injection d'aide, et finalement, on a une annulation des effets. Le paradoxe, et les chiffres sont sortis sur les prévisions aussi de l'INSEE, sur l'épargne des ménages, on va à nouveau une hausse de l'épargne des ménages. Ça, on est le seul pays développé dans lequel, post-Covid, non seulement le taux d'épargne n'a pas chuté de façon spectaculaire, les Américains sont revenus au niveau de 2019. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont été obligés de taper pour sortir du Covid, ouais, sur leur épargne de précaution. Ils ont tapé d'abord parce qu'il y a eu un effet de rattrapage, et ensuite ils ont tapé parce qu'ils sont confrontés à l'inflation. Nous, c'est quand même un signe. On est le seul pays dont le taux d'épargne est en train de repartir à la hausse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire crainte pour l'avenir, évidemment, mais ça veut dire aussi que le pouvoir d'achat, sauf pour les classes les plus défavorisées, pour l'instant n'est pas pénalisé.
Il y a une question de cohérence politique fondamentale que l'Europe ne s'est pas encore posée. Marc Fiorentino parlait tout à l'heure de l'Allemagne. Il y avait un sujet la semaine dernière sur la ZDF, la chaîne publique allemande, sur une supplication de l'Organisation fédérale environnementale qui suppliait les gens, mais de ne pas illuminer leur maison à Noël, en expliquant que ça sera l'équivalent de la consommation annuelle d'une ville de 400 000 habitants en électricité. 400 000 habitants, c'est pas loin de Dortmund ou de Leipzig. Et donc, cette incohérence politique fondamentale entre la projection du discours de résistance, je mets le terme résistance entre guillemets, bien entendu, face au bouleversement géopolitique qu'impose l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et puis la réalité des Allemands ou d'ailleurs, que je veux continuer à mettre des petites lumières sur mon sapin de Noël. Et de ce point de vue-là, ce n'est réglé ni en France, ni en Allemagne, ni ailleurs en Europe.
Et je pense qu'on a pris une mauvaise habitude depuis le Covid avec ces aides, c'est-à-dire qu'on a oublié que dans les crises, il fallait accompagner les crises, il ne fallait pas tenter de les contrer complètement. Dans les crises, il y a des effets bénéfiques aux crises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une crise telle qu'on la connaît, une crise énergétique, devrait avoir un impact positif sur la réduction de la consommation, le changement des habitudes, qui était souligné, mais qui reste marginal quand on regarde les chiffres dans leur ensemble. Et donc là, en proposant des aides toujours de plus en plus importantes, et ben finalement, on empêche les crises d'avoir leur effet bénéfique. Dans la crise, dans chaque crise, il y a un effet bénéfique. Dans la crise du Covid, il y a une accélération de la digitalisation. Dans la crise de l'Ukraine, on aurait dû avoir une accélération de la transition écologique et de la modification du comportement des ménages.
Sauf qu'en fait, on va arrêter la production.
Exactement.
C'est tout ce qui va se passer.
Exactement.
Et le plan de sobriété qui était présenté hier par la Première ministre.
On est dans de la flûte, quoi. Non, mais quand on arrive à ça, nous expliquer. D'abord, on est dans un truc qui est insupportable, c'est-à-dire qu'on nous a fait ça pendant le Covid. Combien de personnes pouvaient dîner à table le soir de Noël? Là, on nous explique qu'on doit prendre une douche froide, qu'on doit mettre un col roulé. Alors, même si tout ça, bout à bout, est anecdotique, mais à la fin, ça devient ridicule. C'est-à-dire qu'on nous explique ce qu'on doit faire, est-ce qu'il faut se chauffer, pas se chauffer, la température. Soit on prend des mesures qui sont des mesures coercitives, soit ce type d'indications sont totalement ridicules. Alors, on va appliquer les douches froides pour les fonctionnaires. Enfin, on est dans le grotesque.
Juste pour le lavage des mains.
Mais si on prend un tout petit peu de recul, on est quand même dans le grotesque par rapport à la gravité des événements.
En même temps, pour revenir encore à l'Allemagne, l'idée encore qui prévaut, c'est qu'en fixant des caps chiffrés, alors vous avez évoqué effectivement cette augmentation pour les
la semaine dernière.
Les PME là, et sur la semaine du 26, etc. Ouais. En fixant des caps chiffrés, ça influe sur les comportements des citoyens et des petites entreprises. Mais lorsque vous avez plus 10 alors que l'objectif c'est moins 20, c'est qu'il y a un écart de 30. Ce qui est extraordinaire lorsqu'on pense à une semaine de consommation dans la première économie de la zone euro. Donc l'idée de fixer un cap chiffré pour inciter les gens effectivement ne fonctionne pas.
Gaël Siman, normalement pendant ce temps-là, les réformes continuent. Celle du chômage qui est passée à l'Assemblée, celle des retraites qui est en soi-disant en négociation, là encore c'est de la flûte comme dirait Marc. Quelle est la perception des Français par rapport à ces réformes nécessaires, pas nécessaires, urgentes, pas urgentes?
Alors il y a deux réformes bien distinctes. Il y a la réforme, si on commence par celle-ci, la réforme des retraites, qui est le sujet de colère et d'angoisse majeure de nos concitoyens. On réalise tous les ans un très gros baromètre sur les retraites avec Groupama et on interroge des milliers de personnes. 3000 Français pour aller regarder ce que nous disent chacune des catégories de population et des Européens, des pays voisins, des Britanniques, des Allemands, des Italiens, des Espagnols, pour mesurer les écarts. Donc je vous renvoie à ce baromètre, vous verrez, il y a plein d'enseignements très riches. Mais pour répondre à votre question sur la perception, les Français en gros nous disent, et ça c'est bon pour Marc, et ça rejoint son analyse de tout à l'heure, quand ça va mal, qu'est-ce que je fais? J'épargne, parce que ça va mal.
Et quand ça va bien,
mieux,
j'épargne aussi.
Qu'est-ce que je fais? J'épargne, parce que ça ira sûrement plus mal demain. Et s'agissant des retraites, ça a une incidence, c'est-à-dire qu'ils sont persuadés, nos concitoyens, pour les deux tiers d'entre eux, que notre système de retraite est voué à péricliter, à s'effondrer, à collapser, que ça ne marchera pas, et que eux-mêmes, quand ils partiront à la retraite, ils ne toucheront pas la pension à laquelle ils devraient avoir droit. Donc, ils ont cette inquiétude sur les retraites, ce qui les pousse à être favorables à des réformes. J'ajoute que dans le baromètre, on a creusé la question des femmes et de la retraite. Il y a un vrai sujet. C'est-à-dire que je ne sais pas si les affaires Céline Quatennens ou Sandrine Rousseau, Julien Bayou sont des exemples majeurs de féminisme, d'avancée de la cause féministe. Sur les retraites, c'est une folie. On a 30 à 40% de pensions de moins pour les femmes. Alors, il y a un effet de stock qui explique ça, parce que pendant très longtemps, les femmes travaillaient beaucoup moins que les hommes. Mais il y a aussi un autre phénomène qui est qu'elles ont, beaucoup d'entre elles ont des carrières hachées. Mmh. 47% des femmes nous disent qu'elles ont eu une carrière hachée. Et donc, à la retraite, ça va leur faire toucher moins et partir plus tard. Donc, il y a une vraie demande pour une réforme, mais en aucun cas une réforme qui inciterait à avoir un report de l'âge légal. C'est le tabou absolu. Et quand on creuse, les gens nous disent, à la limite, qu'il faille cotiser plus. Why not? Mmh. En revanche, expliquez-moi pourquoi quelqu'un qui a commencé à bosser à 20 ans aurait le même âge légal de départ à la retraite que quelqu'un qui a commencé à bosser à 28. Mmh. Et donc, là, le gouvernement, il va être en difficulté parce que s'il essaye de passer au 49-3, les trois quarts des Français nous disent « c'est inacceptable ». Et s'il essaye de passer en glissant ça dans le PLFSS, ça ne passera pas non plus. Donc, on est face à un mur parce qu'il a annoncé à l'avance qu'il allait le faire. Et en réalité, du point de vue de l'opinion, il est quasiment en impossibilité de le faire.
Ça fera des bons sujets pour C'est votre argent, parce que ça va faire beaucoup d'épargne à gérer ce soir, 20h.
Exactement. On se réjouit, hein, on a plein d'argent à gérer. Oui. Ce soir, 20h, avec des sujets exceptionnels et des invités exceptionnels.
Dont vous ne connaissez pas le nom, mais je suis sûre qu'ils sont tous exceptionnels.
Ah si, je connais tous les noms.
Si.
On n'a pas le temps, là,
c'est... Non, on n'a pas le temps.
Non, on n'a pas le temps, ça restera un secret. Merci beaucoup à tous les trois. C'est la fin de Good Morning Business. On se retrouve lundi, 6h, 9h.
Passez un bon vendredi déjà et un bon week-end.
Oui, c'est le week-end.
À lundi.